Mercredi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté son projet de loi en Conseil des ministres. Il doit être débattu à l'Assemblée le 19 mars et parmi les principales mesures annoncées, la réforme des études et celle de la carte hospitalière. Anne Gervais, notre invitée ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'hôpital, l'hôpital Bichat à Paris en l'occurrence. Vous êtes hépato-gastro-entérologue, je me suis entraînée un peu à le dire. Vous êtes aussi vice-présidente de la commission médicale d'établissement de la PHP, c'est assistance hôpitaux de Paris, assistance publique hôpitaux de Paris pour être précise. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce projet de loi santé que vous avez regardé de façon globale?
Globalement, bien sûr, c'est le résultat de mois, d'années, et en fait, le gouvernement n'arrivait pas sur un terrain complètement vierge, puisque ça fait des années qu'on réfléchit, on sait qu'on a un système de soins primaires à construire, avec des coordinations à faire, donc ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens pour la réforme des études médicales, tout ça, c'est des bons constats, il faut aller de l'avant. Le problème, c'est qu'il y a des inquiétudes, il y a quand même des points qui vont être discutés par ordonnance, qui dit ordonnance dit qu'on ne va pas pouvoir réellement débattre. Et puis, il y a des désaccords et des attentes immédiates. C'est ça le problème.
On prend peut-être les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. Les attentes immédiates, bien sûr, sont fondamentales et on va y revenir. Mais peut-être, comme vous êtes allé un petit peu vite sur cette réforme des études de santé, arrêtons-nous un instant sur la fin de ce numerus clausus, hein, qui est donc ce concours qui, en fin de première année, limite le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. La fin du numerus clausus, a dit la ministre, permettra d'augmenter de 20% à peu près le nombre de médecins formés, sachant qu'aujourd'hui on parle d'une pénurie du personnel soignant. Est-ce que là vous dites, finalement, c'est une très bonne chose d'arrêter ça?
C'est une excellente chose. Le seul problème, c'est que pour faire un médecin, il faut 10 ans. Donc le numerus clausus qui s'achève en 2020, ça va nous faire des docteurs. Et il en faut en 2030. Il en faut parce qu'on a le même nombre de médecins pour 1000 habitants qu'il y a 15 ans. En fait, on n'en a pas moins. Le problème, c'est qu'il y a une inégalité de répartition qui a été croissante, donc des zones désertes. Et deuxièmement, il y a moins de temps médical disponible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a à la fois des lois à l'hôpital qui fait qu'on ne fait pas 36 heures d'affilée, c'est bien normal, et c'est plutôt rassurant pour les patients, mais aussi en ville, on a des médecins qui ne font plus les permanences de soins éventuellement la nuit, dans les campagnes, pas le samedi, dimanche, parfois un arrêt le mercredi, donc on a moins de temps médical. Il faut ouvrir le temps, le numerus clausus, il faut avoir des études sélectives qui soient peut-être aussi plus adaptées, qui s'ouvrent aux sciences sociales et humaines, parce que finalement la médecine, certes, c'est une science, mais une science qui souvent est une science molle.
On attend trop que les élèves soient sélectionnés sur un bac C, sur un bac scientifique, parce que le bac C va disparaître bientôt.
Absolument, et comme l'a dit, je crois que c'est le doyen de Tours, non seulement c'est pas forcément très adapté d'être le meilleur en maths, mais aussi c'est pas forcément très adapté de venir toujours des mêmes quartiers. Parce qu'en fait, si pas loin d'ici, les lycées peuvent envoyer 20% de leurs élèves en PACES, c'est pas forcément le cas partout. Or, on a besoin aussi d'élèves issus de tous les milieux pour répondre aussi à la demande de toute la population.
Vous êtes très gentil avec moi, vous n'avez pas reprise sur le bac C qui est depuis longtemps devenu le bac S déjà. Devenir médecin aujourd'hui, Anne Gervais, c'est précisément un parcours du combattant. Vous dites qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Est-ce qu'il faut 10 ans pour former un bon médecin? Est-ce que 10 ans, c'est beaucoup, pas assez, assez le temps qu'il faut pour former un bon médecin?
C'est un apprentissage toute la vie. J'espère que je continue, même si je suis vieille et que je parle de bac C, vous voyez. Donc, au bout d'un moment, forcément, on perd un peu en neurones, mais on garde néanmoins en expérience, on acquiert en expérience de telle sorte qu'on compense la perte en neurones. Je pense qu'il faut des années. Et quand je dis 10 ans, je suis sympa, c'est 6 ans d'études et c'est plutôt 6 ans, 8 ans de spécialisation pour les gens qui vont faire d'abord interne, puis chef de clinique, des compétences particulières dont on aura besoin. Donc oui, il faut des années, il faut le prendre en compte. Or, il faut réagir maintenant à une pénurie. C'est ça que nous demandent d'ailleurs les gens dans le grand débat.
C'est-à-dire ?
Ils demandent un accès aux soins immédiat. Ils ne veulent pas attendre 10 ans
aller chez le médecin. Bien sûr. Est-ce que malgré tout, vous conseilleriez à des jeunes de s'orienter vers ce métier aujourd'hui?
Ah mais il est formidable ce métier. J'ai aucun doute sur son utilité. Je crois que tout le monde à l'hôpital, en tout cas ceux que je vois et en ville, mes collègues, sont très heureux. On passe notre temps à voir la gratification immédiate de nos efforts. On a des gens qui nous disent merci docteur. On a aussi des erreurs qu'on commet et dont on a le retour immédiat malheureusement. Mais non, c'est formidable. Mais c'est formidable. Et ça ne peut le rester ou s'améliorer que si on réfléchit bien à la façon dont on pratique. Et il y a quand même une vraie souffrance à l'hôpital ou en ville à cause de l'intensification du travail, la sensation qu'on abat le boulot, qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on ne répond pas à tout, qui pondère cette allégresse quand même. Et c'est à cela qu'il faut répondre maintenant.
C'est cela les attentes immédiates dont vous parliez.
Les attentes immédiates, absolument. Il y a un moment où il faut des moyens.
Hein, aussi, des moyens humains, des moyens financiers, les deux ?
Alors, les deux vont un peu ensemble, parce que pour embaucher les hommes, il faut des sous. Pour avoir des lits ouverts en attendant que la ville puisse être assez bien construite pour qu'on fasse sortir vite nos patients et qu'ils soient quand même bien pris en charge derrière, il faut garder des lits. Donc, il faut du temps, il faut des hommes, il faut des lits. Tout ça, c'est des sous. Alors, vous me direz, il n'y en a pas. C'est un choix. Hein. Quand on regarde la note de France Stratégie de janvier 2019, on sait qu'on a 3,5% du PIB qui est consacré à l'hôpital public, c'est-à-dire environ 0,5% de moins que nos voisins. Par contre, pour la santé marchande, on a 0,7% de plus. C'est-à-dire pour tout ce qui est activité lucrative, médicaments, on y consacre plus. Alors, c'est un choix. Il y a un moment où il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Là, nos concitoyens ont besoin d'un accès aux soins, que ce soit à l'hôpital ou en ville, qui soit un accès de soins public, territorial. Faire un secteur 1, un médecin de secteur 1, en fait, c'est quelqu'un qui participe au service public. Donc, moi, je le compte comme participant au service public territorial avec l'hôpital public.
Qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition de la ministre de la Santé de créer plus d'hôpitaux de proximité, même en créant un label que 500 à 600 établissements publics d'ici 2022 et ce label hôpital de proximité justement pour répondre à ce problème de répartition des médecins en France?
Alors, le label, on ne sait pas encore ce qu'il y a en dessous. Donc, très bien, mais il faut voir. Il faut voir avec tout le monde. C'est ça qui reste important. C'est vrai que nous, on est un peu refroidis, par exemple, sur le financement, parce qu'on a été auditionnés, et puis on arrive à un rapport au BERS sur du financement. Vous allez voir, c'est pas très loin de votre question. Où on prépare des choses sans les principaux acteurs. On prépare une réforme du financement sur le forfait au parcours sans les diabétologues. Il faut qu'ils râlent pour être inclus dedans. Bah là, c'est pareil. Les hôpitaux de proximité, il faut le faire avec les citoyens, avec les élus. Mais c'est une bonne idée d'avoir des centres qui soient entre les soins primaires et l'hôpital, où il y ait un petit plateau technique, de la radio, un labo de réponse. C'est très bien. Maintenant, comment on fait le lien et avec le soin primaire, les médecins de ville, et avec l'hôpital pour pas que quand même les gens se retrouvent là et qu'ils perdent en chance car ils n'ont pas été directement à l'hôpital. Il faut des moyens là encore. Il va falloir de la télétransmission, il va falloir que les électrocardiogrammes soient rapidement envoyés dans le service de cardiologie grâce aux techniques de communication moderne et qu'il y ait un cardiologue au bout pour dire aux médecins de l'hôpital de proximité « envoyez-le ». Par ambulance. Et puis, il faut qu'il y ait un trajet rapide pour aller jusqu'au centre hospitalier. Donc, c'est possible, c'est une bonne idée, mais il va falloir y mettre des sous, encore une fois.
Le gouvernement veut aussi rendre l'hôpital plus attractif et améliorer l'accès aux soins, d'où des mesures pour faciliter le début de carrière des médecins, la création d'un statut unique de praticien hospitalier. Est-ce que l'attractivité à l'hôpital, c'est un mot que vous pourriez utiliser, Anne Gervais ?
Alors, il est fondamental, et pas que pour les médecins, pour les infirmières. Là, on s'aperçoit de choses épouvantables. Hier, on a fait un espèce de grand débat au sein de l'AP et on a eu les infirmières qui nous disaient, finalement, on reste de moins en moins, même des infirmières de réa ou qui ont acquis des compétences extraordinaires qui sont données pour leur métier, elles s'en vont. Elles vont faire autre chose, et plus infirmières. Donc, l'attractivité à l'hôpital, c'est important de faire venir et faire rester pour y garder les compétences. Mais est-ce que la discussion, c'est venez, soyez praticien hospitalier parce qu'on va vous permettre de travailler en ville, ce qui est un petit peu ça l'article 6. Donc, est-ce qu'on règle le problème de la souffrance à l'intérieur de l'hôpital en disant bah, « c'est pas grave parce que le deuxième, troisième, quatrième jour, vous irez faire autre chose ailleurs ». Non, il faut régler les choses à l'intérieur. Donc, très bien, avoir des exercices mixtes, pourquoi pas ? Moi, j'y suis très favorable. Ça veut dire quand même qu'il faut garder des gens pour assurer en continu le soin à l'hôpital. On ne peut pas imaginer que chaque jour, vous avez un nouveau docteur en face. Mais il faut garder une cohésion des équipes avec des gens stables, compétents et qui sont heureux de travailler là où ils sont. Ils ne sont pas malheureux en se disant « c'est pas grave, demain je serai ailleurs ».
On dit souvent, Anne Gervais, que quand même les hôpitaux de Paris sont mieux dotés que les hôpitaux d'un certain nombre de villes françaises et sur le territoire. Malgré tout, à Paris, nous avons beaucoup d'hôpitaux. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes plus heureux, que vous avez moins de souffrance, mais quand on entend aussi des témoignages, justement, des infirmières, de certains médecins dans les services des hôpitaux parisiens, remonte quand même un certain nombre de souffrances. D'ailleurs, vous êtes signataire il y a près d'un mois avec 1000 médecins et cadres de santé d'une tribune vous alarmant sur la situation dramatique des hôpitaux français. Ça veut dire que vous êtes en lien entre Paris et le reste du territoire, aussi bien en gastro-entérologie avec d'autres de vos collègues, pour discuter de ce qui ne va pas, aussi bien de ce qui va sur l'ensemble du territoire. Vous avez des discussions quand même entre vous.
Ah mais les constats qui sont faits à Paris sont partagés partout. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui soient à Dax, à Perpignan, partout, qui sont dans la même difficulté. La grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas l'espèce de masse de médecins, d'infirmières qui peuvent se réunir, protester. Peut-être qu'ils sont plus loin du micro, les malheureux. Moi, je suis très contente, je ne suis pas loin, je peux m'en emparer. Donc, c'est super. Non, les constats sont partagés, la pénurie, elle est partagée. Il y a des endroits où on a dépassé la pénurie, on est forcé de faire appel au privé. On a déjà eu la fuite des médecins, de telle sorte que dans certains hôpitaux, en fait, la radiologie est privée et l'hôpital public va sous-traiter, on va dire, une partie de ses services au privé. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que le privé fait la partie, on va dire, lucrative, la cardiologie, la radiologie, et puis l'hôpital s'occupe de ce qui n'est pas rentable, mais qui demande de plus de soins, de charges humaines, et ça va être l'hospitalisation, le patient polypathologique qui aura été faire son acte à l'extérieur et sera repris en charge par l'hôpital. Et ça, c'est d'ores et déjà quelque chose qu'on constate dans les hôpitaux publics français.
Anne Gervais est notre invitée, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Bichat à Paris. Émilie Chaudet, dans sa revue de presse, parlait de ces non-dits, du grand débat, de la parole des usagers qui n'est pas toujours audible. Mais surtout, ce que disait à l'instant Émilie Chaudet me fait penser à une sorte d'appel, de cri d'alarme du président de la fédération hospitalière, Frédéric Valletoux. Il dit « Grand débat national, n'oubliez pas la santé ». Est-ce que ça veut dire, Anne Gervais, que la santé, c'est vraiment une grande absente du débat public ? C'est un thème qui n'a pas été retenu dans les thèmes principaux ?
Oui, enfin, c'est à la fois pas retenu et en même temps implicitement quelque chose de mis dans la dépense. Quand vous regardez sur la fiche envoyée sur le site du Grand Débat, vous avez 500 des 1000 euros par Français qui sont des dépenses publiques liées à la sécurité sociale, le mode assurantiel. Bon. Ça, c'est la santé. Une partie de ces 500 euros, c'est à peu près 200 sur la sécu, enfin la sécu maladie. Donc, forcément, on le traite d'une façon ou d'une autre. Il est très curieux de le voir comme une dépense, d'ailleurs. Dire que vous avez 500 des 1000 euros, c'est des dépenses, et peut-être un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Non, si ça n'était pas une dépense publique, ce serait une dépense privée. Ce que les Français dépensent en ayant des cotisations sociales qui leur sont rendues ensuite sous forme de chômage, de retraite, d'assurance maladie, ils cotiseraient pour eux-mêmes sous une forme privée. Et ça serait pas forcément 500 euros quand vous regardez votre mutuelle. C'est plutôt 100 euros par mois. Si vous rajoutez une mutuelle mieux faite pour faire toutes les dépenses d'assurance maladie, hein, la Sécu, ça rembourse 93% de votre dépense à l'hôpital. Votre Sécu, c'est seulement 7%. Votre mutuelle, pardon, c'est seulement 7%. Donc vous payez 100 euros pour être remboursé 7% de votre dépense hospitalière. Imaginez ce que vous devriez cotiser à la Sécu privée pour réussir à rembourser 93% de votre dépense hospitalière quand vous êtes hospitalisé. Donc dire que la dépense publique de santé est très forte, en fait, elle est probablement bien inférieure que de ce que vous payerez si elle était privatisée. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Donc, séparons dépenses publiques d'État et sécurité sociale. Si vous ne payez pas pour la Sécu, vous la payerez pour une assurance privée. Donc, on va dire, sanctuarisons cette ressource-là. C'est quelque chose de très important. Et Alternative économique le dit bien, arrêtons de tout grouper, regardons. Est-ce que la France est sous-administrée? Non, elle est bien administrée. Est-ce qu'elle est plus administrée qu'ailleurs? Non. Probablement, la dépense publique, elle est adéquate. Et probablement, l'assurance publique maladie, elle est assez adéquate. Il y a des endroits où il faut gagner en pertinence, éviter de dépenser autant. Tout ça est vrai. Il faut y travailler. Mais il faut aussi se poser la question de coûts qui sont des coûts privés. Pourquoi dépense-t-on tant pour l'innovation, par exemple? Pourquoi dépense-t-on tant? On a maintenant des formidables nouveaux médicaments à 350 000 euros le traitement pour un malade. Il va falloir quand même se poser la question et pas dire « Ouh là là, c'est trop cher, donc on va diminuer le nombre d'infirmières ». Non, il faut quand même maîtriser la dépense de l'innovation. Et ça, c'est de la dépense, on va dire, assurée par la Sécurité sociale, mais qui va directement aux grandes compagnies pharmaceutiques.
Mais certains disent, Anne Gervais, qu'en termes de maîtrise des dépenses, il est aussi important que l'hôpital, qui est aussi une entreprise, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente aujourd'hui, doit maîtriser ses dépenses et ne doit pas justement dépenser à tout va sans faire attention et sans regarder précisément ce que ça lui coûte et ce que ça...
Mais on le fait chaque année. Chaque année, on regarde ce qu'on dépense, ce qu'on reçoit. Et en fait, la Sécu est à l'équilibre, mais les hôpitaux sont dans le rouge.
Oui.
Les hôpitaux sont dans le rouge et ils sont en redressement. Les hôpitaux ont diminué leurs effectifs dans plein de lieux et de villes. Ils se sont restructurés. Tout le monde sait qu'on est passé de 1300 maternités à 500. Je veux dire que on ne fait rien, ça n'est pas vrai. Chaque année, nous avons des gestionnaires, des directeurs dont c'est le boulot. Ça n'est pas les médecins savent très bien au moment où ils prescrivent qu'il y a des coûts derrière leur prescription. Le vrai problème, c'est que l'hôpital n'est plus financé en ayant rapproché les tarifs de remboursement des coûts réels de ce qu'il fait. C'est ça le problème.
Anne Gervais, on parlait dans la fabrique médiatique il y a un peu plus de presque une heure maintenant d'un sujet qui touche absolument tout le monde et qui vient de toucher les médias, qui est le sujet de MeToo et des problèmes de relations entre les hommes et les femmes dans les médias et plus largement dans la société. On a pas mal entendu de choses depuis un an et demi concernant les relations entre les femmes et les hommes, les question de harcèlement sexuel aussi, ou d'abus de domination, à l'hôpital. Est-ce que ce sont des choses que vous vivez, que vous voyez au quotidien, dans votre service, à l'hôpital Bichat notamment?
Alors, à Bichat, peut-être pas. On est un service un peu particulier. Je travaille en maladies infectieuses. Je suis l'hépatologue des maladies infectieuses, où on a un professeur chef de service, mais on avait trois femmes qui étaient des professeurs adjointes. Donc c'est dire qu'on est un peu particulier. Les professeurs, c'est un peu le top hiérarchique de l'hôpital. Ça n'est pas en fait le reflet de la majorité de ce qui se passe à l'hôpital, ce service-là, parce qu'effectivement à l'hôpital, on a plutôt quatre hommes professeurs pour une femme. C'est plutôt ça le ratio. Et en fait, plus on va descendre dans la hiérarchie, moins ce ratio sera vrai et plus il va s'inverser. Et quand vous arrivez au niveau du docteur de base, c'est 6 femmes, 6 à 7, même maintenant, pour 4 hommes. Donc le ratio est inversé. Donc oui, bien sûr, il y a un problème de domination, un problème de pouvoir, et puis derrière, il y a des habitudes qu'on va dire de qui étaient considérées comme du folklore et qui étaient du harcèlement. Je veux dire, ça va jusqu'à, je vais tout à fait choquer mes collègues, mais les murs de salle de garde, ben, je suis désolée, mais c'est de l'anthropologie qui serait à mettre au musée des arts et traditions à la con. Là, franchement, les murs des salles des gardes avec les positions de soumission des femmes et de domination des hommes, c'est la traduction de quelque chose qui se passe dans les esprits, oui.
J'aimerais vous demander ce qui vous attache tant à l'hôpital public.
Mais je vous l'ai déjà dit, on a l'impression d'être d'une utilité absolue. Ça, j'ai aucun doute sur ce que je fais du matin au soir. Il y a une deuxième chose qui est fabuleuse, c'est de travailler ensemble. On est en équipe.
Vous êtes combien, par exemple, dans votre service?
Ah, on est beaucoup, parce qu'on a 60 lits en maladie infectieuse. Je pense qu'on nous enfermera beaucoup. Moi, je suis pour qu'on en enferme si on fait ce qu'il faut pour que les patients soient bien pris en charge ensuite. Faut pas commencer par dire, on vous ferme, puis on verra si la ville assure. Hein. Non, c'est pas possible. Donc, on doit être une petite dizaine de docteurs. On a des équipes. Alors, c'est compliqué, parce qu'on a... Vous voulez...
Non, c'est pas autant. Disons que vous êtes nombreux et que vous aimez travailler en équipe.
On est très nombreux sur la photo. On doit être 80 quand on fait la photo de service, quoi, avec les paramédicaux, les psychologues, diététiciennes, tout le monde, quoi, oui.
Oui, donc c'est travailler en équipe, c'est le quotidien. Et c'est... Vous disiez tout à l'heure, finalement, quand on travaille à l'hôpital, on est très heureux. Il y a quelques moments de souffrance, mais c'est métier-là, c'est un métier qui...
Jusqu'à présent, on était très... Enfin, pas jusqu'à présent, ça s'est dégradé. C'est-à-dire, on est utile, on travaille en équipe, on a en plus l'impression de faire progresser les choses. Je suis dans un CHU, on fait des nouvelles choses, on arrive à mieux traiter, on est plus efficace, on règle des cas un peu diagnostiques difficiles. Donc, c'est un peu... intellectuellement, c'est extrêmement satisfaisant.
C'est stimulant.
C'est stimulant, voilà, c'était le terme que je cherchais. Le problème, c'est qu'il y a une dégradation des conditions de travail qui est réelle, on ne peut plus le nier.
S'il y a tant de malaise et tant de souffrance malgré tout et la dégradation des conditions de travail, Anne Gervais, pourquoi les médecins et tout les personnels de santé ne sont-ils pas plus dans la rue aujourd'hui?
Ah ben c'est une vraie question. Je ne sais pas, je crois qu'on a passé le cap, malheureusement, du moment où on était dans la rue. Au début, on s'est dit on va être dans la rue... Puis on n'a pas eu l'impression d'obtenir des choses et finalement on se résigne. C'est un peu comme l'annonce d'un cancer. En début, vous vous révoltez et puis après, vous résignez. Et ces différentes phases d'avancée psychologique sont très mauvaises pour l'hôpital. Il faut rester dans l'indignation. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on accueillera mieux les patients. Je souhaite que les grands débats qu'on organise au sein des hôpitaux permettent de dégager non seulement nos souhaits dans l'idéal, mais des propositions qui soient entendues et qui permettent d'avancer.
Tout ne se passe pas dans la rue, cela dit. Il y a des débats qui sont organisés par les praticiens et praticiens hospitaliers. Je pense par exemple à ce groupe des 26 qui a été lancé en février 2018 par des praticiens, qui a donné lieu à un rapport qui s'intitule « Changer la vie à l'hôpital » avec des mesures qui sont proposées. Donc, d'une certaine façon, vous vous emparez vous-même, même si vous n'avez pas été invité dans le grand débat national, Anne Gervais, avec les praticiens de santé, vous vous invitez aussi vous-même dans le débat en organisant vous-même des débats.
Oui, alors je pense qu'en plus, on peut le faire non seulement pendant cette période propice qui permettra de faire remonter nos propositions, que ce soit au sein du site ou même le faire paraître grâce à vous, grâce à vos collègues, mais au quotidien à l'hôpital. Il faut qu'on se parle, on est en équipe, on travaille ensemble. Donc réussir à régler les problèmes ensemble, ça nécessite ces moments d'échange, ces moments où on va se poser et parler ensemble. Si on arrive à donner cette habitude au sein de l'hôpital, et peut-être à convier nos collègues de ville avec qui on travaille, ce sera super. Et les usagers, et pourquoi pas? Pour ça, il va falloir quand même un tout petit peu qu'on ait du temps. Et du temps, ça reste un peu de l'argent.
Il nous reste peu de temps à nous pour terminer ces matins du samedi de France Culture, Anne Gervais. Il nous reste un petit quart d'heure, mais restez avec nous. Nous passons au dernier quart d'heure de ces matins du samedi, 8h47 sur France Culture.